à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à chacun dans ce culte qui réunit nos deux communautés protestantes et évangéliques avec le thème de l'été sur la liberté que nous poursuivons ce matin avec Nicolas Jeunecamp. Bonjour Madame Jeunecamp. Donc, de quelque confession que vous soyez, parce qu'il y a des protestants, des évangéliques, mais peut-être qu'il y en a d'autres encore, que vous nous visitiez ou que vous soyez des habitués de ce lieu ou encore que vous nous suiviez en streaming, vous êtes chacun les bienvenus. Croyant convaincu ou tâtonnant ou vacillant, ou balbutiant, cette phrase de Jésus est pour vous, le temps favorable est venu, le règne de Dieu est tout proche, changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, avant Jésus, appelait à changer de vie pour le pardon des péchés. Il y avait cette idée qu'un jugement était là. Jésus appelle à changer de vie en accueillant la bonne nouvelle. C'est une idée qui est développée par Antoine Nuis et pour nous la faire bien comprendre, il a une petite histoire que je vais vous raconter. Un jour, le vent lance un défi au soleil. Il lui dit : Tu vois là en bas cet homme avec son manteau ? Je te parie que j'ai la force de le lui enlever en un rien de temps. Le soleil accepte le pari. Il va se cacher derrière un gros nuage avec un tout petit trou pour voir ce qui va se passer. Le vent se met à souffler. L'homme serre son manteau contre lui. Le vent souffle plus fort. Il souffle. L'homme serre plus fort son manteau contre lui. Pour finir, le vent tout essoufflé est obligé de reconnaître qu'il a perdu. Alors, le soleil sort de derrière son nuage, tranquillement, et il se met à sourire en brillant, calmement. Au bout d'un moment, l'homme sent la chaleur du soleil et enlève son manteau. Je vous laisse tirer la morale de l'histoire. Mais je souhaite que pour ce culte, le sourire de Dieu sur vous soit chaleureux et bienfaisant et que le sourire que nous échangerons les uns avec les autres sois chaleureux et bienveillant pour tous. Nous prions. Il est bon, Seigneur, de penser à toi comme un soleil qui nous éclaire, nous réchauffe juste ce qu'il faut et nous fait du bien. Nous en avons besoin. Nous te prions pour nous et pour tous ceux qui sont dans la peine, malades, souffrant, traité injustement, subissant la folie des hommes. Que ton Saint-Esprit soit avec eux, leur donne de la force et du courage et leur fasse sentir que tu es à leur côté. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta présence, à ta parole et lie-nous les uns aux autres par ton Saint-Esprit. Amen.
Levez si vous le pouvez, pour entrer dans la joie de notre Seigneur, comme l'a dit Denise, Christ est notre lumière. C'est lui qui, malgré tout nos zones d'ombre de la vie, parce qu'il peut y en avoir, c'est sur lui qu'on veut garder les yeux fixés, parce que il y a 2000 ans de ça, à peu près, les enfants, il est venu sur terre pour pour mourir pour nos péchés, alors c'est un peu compliqué à comprendre. Hein. Vous avez toute une vie pour apprendre ce que ça veut dire. Et ce matin, on veut rentrer dans cette joie de savoir que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, qu'il est mort sur une croix pour nous et qu'il est ressuscité. Alors je vous invite à chanter un retentissant victoire durant cette... même si c'est tôt le matin, puis on sait qu'on est un petit peu rusty, on va rentrer dans la joie du Seigneur.
Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint.
Nous les fils,
nous les fils et
Sauveur, les enfants, c'est-à-dire qu'il est notre rédempteur. Encore un mot un peu compliqué pour dire que Jésus est venu pour nous sauver. C'est ce qu'on va chanter.
Rédempteur du monde, Jésus.
merci Seigneur parce que Jésus n'est pas le seul qui a été envoyé. Tu as envoyé ton Esprit Saint sur nous afin qu'on puisse vivre selon ce que tu nous demandes Seigneur, par ton amour. Viens Esprit Saint, descends sur nous pour que nous apprenions à vivre selon toi, selon ton amour Seigneur. Viens nous remplir de ton esprit. Embrasse-nous pour toi, Seigneur, qu'on puisse vivre une vie consacrée à toi.
Seigneur.
parce que tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous rasseoir.
Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Viens, c'est pour vous les enfants, parce que vous allez nous quitter, mais j'aimerais que vous nous quittiez avec cette idée. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, au milieu de tout ce que je n'arrive pas à faire, de ce que je ne suis pas content. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. C'est une promesse, vous pouvez partir avec elle dans vos groupes ce matin. Nous lisons dans Luc, au chapitre 4, les versets 16 à 21. C'est les textes choisis par Nicolas pour nous entraîner à penser. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue, selon sa coutume, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à dire « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. »
Bonjour à toutes et à tous. Salut Philippe. C'est un plaisir de se retrouver ici pour moi. Comme chaque année, j'ai envie de dire, merci beaucoup pour cette invitation, ces échanges qu'on a année après année. Et puis, quelle bonne nouvelle on vient d'entendre. Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Un texte souvent lu plutôt pendant la période de l'Avent, au moment où on se prépare à Noël, on se rappelle de l'action qu'a fait Jésus, qu'est-ce que cette venue de Jésus sur terre a fait, et on rappelle cette prophétie tirée du livre d'Ésaïe, avec notamment une libération qui est annoncée, la liberté qui est proclamée. On est dans le thème de l'année de cet été. Et c'est le cœur de l'Évangile. En revendiquant l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, Jésus annonce l'inouï de l'incarnation. En Christ, Dieu est venu poser, est venu pour le pauvre, pour le captif, pour le cabossé, pour celui qui est tordu. Et c'est le tout début du ministère public de Jésus. C'est donc un peu une annonce de son programme qu'il nous fait là. Alors reprenons dans l'ordre cette relecture du prophète Ésaïe. Tout d'abord, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans l'évangile de Luc, l'Esprit, en particulier au début, est très important. Déjà avec Jean-Baptiste, avec ses parents, Élisabeth et Zacharie. Puis ensuite, je ne vous parle pas de la naissance de Jésus, il a une fonction assez importante, le Saint-Esprit. Au moment de sa présentation au temple, Siméon est habité par l'Esprit. Puis vient la tentation, où là aussi l'Esprit est mentionné, autant de choses, de moments où l'Esprit est présent. Et aujourd'hui, on lit, c'est dans les versets qui précèdent, que Jésus revient en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Et on retrouve cet Esprit dans la citation d'Ésaïe, dans un rôle fondamental. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction. Il m'a conféré l'onction. Tout à l'heure, il y a eu des traductions pour les enfants, mais je crois qu'en français, même pour les adultes, on n'est pas très bon. Il m'a conféré l'onction, on a vu plus clair. Alors, pour faire plus clair que le français, ben, je vous propose le grec pour commencer. C'est pas ça. Ça passe pas. Voilà. Il m'a conféré l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça viendra après. Mais, ah non, j'en parle pas, j'ai pas mis les diapos. Excusez-moi. Voilà. Il m'a conféré l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a fait Christ. Ça, c'est en grec. Puis si on le lit en hébreu, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a fait Messie. Des mots qu'on connaît dans notre patois d'église. C'est une bonne nouvelle. Et justement, il est Christ pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà, c'est le suivant. Oui, on est très pauvre en bonne nouvelle et on est très riche en mauvaise nouvelle. Et là, on apprend que cette personne est venue, qu'il a été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. On est bien dans le thème de l'été, et ça rejoint aussi la prédication de Philippe la semaine dernière avec ce texte de Jean 8. « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Et donc, annoncer aux aveugles le retour à la vue et pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Oui, le ministère de Jésus a été dans ce sens, non seulement pour guérir des aveugles, mais aussi pour nous ouvrir nos propres yeux sur d'autres réalités. Et Jésus, ben, il commente son texte avec cette phrase « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Pas trop longue la prédication de Jésus. Mais c'est merveilleux, parce qu'on est tous d'accord avec ça. Jésus a tout fait à merveille, il est le Christ. Alléluia. Alors bon, ben, j'ai décidé de ne pas faire plus long aujourd'hui. Il est le Messie, cette écriture est accomplie. Amen.
Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, n'est-ce pas le Fils de Dieu, de Joseph? Pour nous, il est plus le Fils de Dieu que le Fils de Joseph. Il leur dit, certainement, vous me citerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capharnaüm, selon ce que nous avons appris, fais-le aussi ici, dans le pays où tu es né. Il leur dit encore, « Oui, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut pas envoyé vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Ésaïe. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, mais Naaman le Syrien. Lorsqu'ils entendirent cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla.
Effectivement, l'accueil n'a pas été aussi joyeux que ce que j'ai pu laisser entendre tout à l'heure. Il n'y a pas des grands alléluia, tout est beau dans la prédication de Jésus. Et là aussi, la réaction du texte la semaine dernière, les personnes qui ont entendu Jésus disaient « Mais nous n'avons jamais été esclaves de personne, pas besoin d'être libérés. » On voit qu'il y a des parallèles, des choses qui se recoupent dans les différents évangiles. Et dans le texte d'aujourd'hui, de nouveau, il semble que ce beau message ne passe pas. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui ne joue pas? On va essayer de voir quelques points qui peuvent proposer des réponses. Tout d'abord, l'identité de Jésus. Comme on l'a entendu avec la langue de Denise Fourché, c'est pas grave, mais c'est révélateur justement. Jésus, pour ces gens, c'est le fils de Joseph. Et là, il se place comme le Messie, celui qui a reçu l'onction, celui sur laquelle on a versé de l'huile pour le faire roi ou prêtre ou prophète, mais roi en particulier, avec le texte messianique qu'il lisait. Jésus, est-ce que c'est celui qui a reçu une élection divine ? Non, ça se saurait. Quand Charles III a été couronné roi d'Angleterre, il a reçu une onction avec de l'huile, ça a été fait. Et si quelqu'un était venu et disant « Non, non, c'est moi qui suis roi d'Angleterre, c'est moi qui ai reçu l'onction », pas sûr que ça aurait joué. Je pense qu'on lui aurait dit « Oui, oui, puis moi je suis la reine d'Angleterre ». Eh bien, pour Jésus, il en est de même. Il est le fils de Joseph, pas le Messie attendu. Ça se saurait s'il avait reçu une onction. Alors, est-ce que le Jésus des évangiles, c'est une question qu'on peut se poser pour nous, est-ce qu'il correspond à l'image que je me fais de Jésus ? Et réciproquement, est-ce que l'image que je me fais de Jésus correspond au Jésus des évangiles ? Deuxième aspect, le peuple, le message de Jésus. Le peuple attend un Messie, un sauveur, il attend un libérateur. Mais quelle libération, quel sauveur ! Il y a l'occupation romaine à cette époque et le peuple rêve d'un roi comme au temps du roi David. Une libération politique, militaire. Et dans ce sens, la citation de Jésus, quand il reprend Ésaïe, pour ceux qui connaissaient bien leur ancien Testament, leur Torah, c'est leur livre à l'époque, eh bien, ça devait les déranger. Parce que Jésus, il dit pas tout quand il cite ce prophète. Dans Ésaïe, on lit « Il est envoyé proclamer l'année de la faveur du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu. » Face à l'occupant, sans doute que certains souhaitaient la vengeance, mais Jésus ne la mentionne pas, il s'arrête avant la fin du verset. La libération ne passe pas par la vengeance, et réciproquement, la vengeance n'entraîne pas la libération. Là aussi, on peut se poser une question. Est-ce que je me laisse déranger par le message de Jésus, un message qui peut-être parfois me dérange ? J'attendrai plus de ce Jésus que ce qu'il est venu lui-même annoncer. Une troisième piste pour expliquer ce refus qui est fait, c'est cet élargissement de la bonne nouvelle. Dans les discussions avec ses voisins ou avec lesquels il a grandi à Nazareth, Jésus montre par deux exemples liés à la vie d'Élie et d'Élisée que cette bonne nouvelle, elle n'est pas seulement réservée au peuple d'Israël, ceux de Judée, de Galilée, ceux de Samarie, on ne va pas trop en parler, mais non, ce message, il est ouvert à toutes les nations. Jésus souligne que ce n'est pas la nationalité qui est importante, mais l'ouverture du cœur. Le message est sans doute clair pour les habitants de Nazareth. Et si les véritables étrangers à cette grâce étaient en fait les auditeurs eux-mêmes de cette parole. Au fond, les aveugles, les captifs, les opprimés, c'est peut-être d'eux qu'il s'agit. Et aujourd'hui, c'est peut-être de moi qu'il s'agit. La bonne nouvelle à recevoir et à annoncer nous sort de cette zone de confort, de notre foi bien installée. La bonne nouvelle, je crois qu'elle doit nous bousculer, nous ouvrir les yeux et les oreilles sur l'actualité inattendue qu'elle peut prendre dans l'histoire. On le voit, la grâce est annoncée, plus grande que la grâce attendue. Les Juifs attendaient une grâce et tout d'un coup, ils découvrent que c'est une grâce plus grande. Mais ça les dérange parce que dans la grâce plus grande, il y a peut-être aussi ces Romains qu'ils n'aiment pas trop, quoi. On le voit, la liberté ouvre des fois sur des espaces qui ne sont pas forcément confortables, non plus pour nous aujourd'hui. Quelles sont les conséquences et qu'est-ce qu'il en est pour nous aujourd'hui ? Les conséquences à l'époque, vous l'avez entendu, c'est que Jésus, il est condamné à mort. Son ministère n'a failli durer que quelques jours, il y a un petit passage avant dans d'autres villages de Galilée, mais non, heureusement ce n'est pas la fin, parce que la fin de ce récit, on l'a vu, Jésus est jugé, condamné à mort, mais juste pas mis à mort. Jésus passe vivant, il passe libre, il n'est plus condamné, ou en tout cas, il passe au-delà de la condamnation. Il a une forme d'autorité qui vient de l'Esprit-Saint. Là, il faudrait le développer dans les chapitres suivants. L'autorité de Jésus est mentionnée à plusieurs reprises. Mais oui, la foule est excitée, mais Jésus s'avance tranquillement. Personne n'ose intervenir il n'ose intervenir et lui-même est déjà plus fort que la mort. Juste avant, dans le récit des tentations, le diable avait proposé à Jésus l'autorité sur les royaumes, mais c'était une autorité fondée sur la force, sur la domination, alors que l'autorité de Jésus est personnelle. Elle est forgée dans sa résistance au mal et à ses tentations, justement. Et alors pour nous aujourd'hui, la prédication de Jésus, elle a un caractère provocant, je le disais. C'est étonnant, annoncer la grâce, comme je le disais dans la première partie, ça devrait plaire, ça devrait nous convenir. Alors comment est-ce qu'on réagit face à cette grâce annoncée à toute l'humanité, à toutes les nations ? Comment est-ce qu'on l'accueille ? Est-ce qu'elle nous dérange ? Est-ce qu'on voudrait la garder, la confisquer ? Est-ce qu'elle nous dérange parce qu'elle est un peu différente de ce qu'on en a l'habitude ? Est-ce que l'image que je me fais de Jésus est conforme à ce qu'il annonce profondément dans sa vie, dans ses rencontres ? Est-ce qu'on est prêt à accueillir cette grâce, cette libération, même si elle n'est pas présente comme on l'attend, comme on l'entend ? Alors c'est vrai qu'au cœur de cet été, on a ces échanges entre la paroisse et l'Église évangélique. Eh bien, je trouve que c'est une richesse de vivre ces temps d'échange, de découverte, d'autres façons de vivre la Sainte-Seine, d'autres façons de vivre la louange, d'autres façons d'être en musique pour adorer Dieu. Mais finalement, c'est le même Seigneur qui est bien plus large que nos façons que nous avons de penser, de vivre notre foi, et sans doute qu'il apprécie tant l'une que l'autre. Alors est-ce que parfois mes convictions ne sont pas dérangées, mais que j'ai un peu de peine à l'admettre ? Je préfère rester dans mon confort. Ce Jésus qui dérange, est-ce que je ne suis pas tenté de le cacher, voire même de le faire précipiter en bas d'une falaise ? Parce qu'effectivement aujourd'hui, cette écriture étonnante, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie, a dit Jésus. Cette remarque, elle peut paraître banale, mais elle prend ici une force insoupçonnée de vie qui oblige chacun à se déterminer. Soit on peut basculer du côté de la mort ou du côté de la grâce. On n'est pas arrivé à ce point-là. Les gens de Nazareth ont été invités à réfléchir et puis sans doute qu'ils ont évolué aussi avec ce qui s'est passé. Mais on a vu Jésus qui a annoncé une année d'accueil, mais lui qui n'est pas accueilli dans son village à Nazareth. Alors cette invitation, elle est là pour nous, osons l'accueillir, tel qu'il est, avec l'entier de son message, l'entier de sa grâce. Amen.
Je ne sais pas vous, mais c'est vrai pour moi en tout cas que des fois j'ai envie de secouer Jésus ou Dieu parce que J'aimerais qu'il intervienne dans les situations que je lui présente. Et il semble que rien ne se passe. Puis il y a d'autres moments où on est bien, où on l'accueille et où sa présence nous fait du bien. Nous sommes invités à nous détendre et à accueillir la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est pour cela que je vous invite à la prière maintenant. Vous pouvez prier dans votre cœur ou à haute voix, partager vos ressentis, vos idées dans la prière. Nous prions. Prier, Seigneur, c'est te parler. Ce n'est pas forcément demander, c'est aussi dire ce qui se passe. Merci parce que tu nous écoutes. Amen. Amen. Amen.
Seigneur, si tu viens nous apporter la liberté, c'est que sans doute nous manquons de liberté, c'est sans doute que nous sommes dans des prisons, dans des
Seigneur, dans nos combats, nos difficultés à discerner où est ton chemin, nous aimerions te dire que parce que tu comprends bien nos peurs, parce que tu connais bien nos cœurs, nous aimerions te dire, Seigneur, que nous avons confiance en toi. Oui, nous avons confiance en toi. Dans un instant, nous allons prendre la scène. Pardon. Et je crois qu'il y a un verset, ça doit être dans les Corinthiens, je ne sais plus exactement où, qui dit que si on a quelque chose contre un frère, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut en parler, aller demander pardon avant de prendre la scène. Et c'est Nicole aurait quelque chose à nous dire.
Bonjour à tous. C'est un fardeau que le Seigneur m'a mis à cœur depuis longtemps et que je freine des quatre pattes pour le dire. Alors, vous qui représentez l'Église, je vous demande pardon à chacun d'entre vous et à ceux qui nous regardent d'avoir jugé et condamné l'Église. Je voulais que tout le monde pense comme moi, qu'il soit comme moi. Puis, avec le temps, je remarque que chacun a ses forces et faiblesses. Et c'est avec ça qu'on fait l'Église, on a tous à apporter quelque chose. Et alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin.
Reste là. T'es courageuse, Nicole, hein ? Ça coûte, ça, non ?
Oui, ça coûte, oui.
Ben, merci.
Ça coûte, oui.
Merci. Et je pense qu'on peut, avec ce qu'on sait du Seigneur, ce qu'on découvre ensemble de lui... être assuré de son pardon, de sa grâce, de sa rédemption. On continue la route. Oui. Il nous libère et puis ça fait du bien.
Amen. Ouais, c'est un fardeau qui... Ouais, ça fait une année que ça... C'était suite à un culte où on s'était retrouvés en rond, là. Puis quelqu'un qui a prié, puis tout d'un coup, ça m'est tombé dessus. Puis je traîne ça depuis une année, quoi. Donc je dis, c'est bon, là, je peux plus, là, c'est...
Ben oui, l'Église est témoin de ta parole et on, on reçoit, et bien sûr que le pardon, il est amplement partagé, n'est-ce pas? Merci.
Et je voulais vous dire que je vous aime.
Une année d'accueil aussi qui est promise après une année peut-être plus difficile. C'est une année d'accueil, mais les années du Seigneur, on sait ce qu'elles valent et ce qu'elles durent, bien plus qu'une simple année. Après la prédication de Jésus à Nazareth et aux alentours, les pauvres ne sont pas devenus riches. Ils n'ont pas obtenu l'égalité, mais ils ont reçu la bonne nouvelle. Ce qu'on voit aussi un petit peu plus loin, lorsque Jésus dit « Heureux êtes-vous, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». Nous nous savons pauvres, pauvres de nos relations, de notre capacité d'accueil. Nos yeux restent fermés aux réalités du monde. Nous sommes parfois enfermés dans ce que nous croyons être notre liberté. Eh bien, ce royaume est pour nous, il est le signe de ce royaume annoncé. Ce repas est pour nous, il est le signe de ce royaume annoncé.
En relisant Ésaïe, Jésus a annoncé son programme. En voulant le mettre à mort, les habitants de Nazareth préfigurent déjà les oppositions que Jésus va rencontrer jusqu'à la croix. Jésus annonce une année d'accueil de la part du Seigneur et il est condamné au bout de 10 minutes de discussion. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. »
Et de même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Alors que Jésus est menacé de mort, il passe au milieu de la foule. Avec sa force intérieure, il témoigne de son autorité, mais ne prend pas le pouvoir. Ce verbe « passer » fait penser déjà à la Pâque, ce verbe qui veut aussi dire « passer », passer par-dessus, passer outre. Et là, Jésus passe déjà de la mort à la vie. Alors Seigneur, nous te prions, merci pour ta vie donnée, merci pour la liberté qui t'habitait et que tu nous invites à faire nôtre. Nous t'en prions, envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en mangeant ce pain et qu'en buvant cette coupe, il nous soit donné d'être en communion les uns avec les autres et tous ensemble avec toi. Amen.
Jésus est passé à travers la foule et encore avec ce repas et avec nous qui allons passer avec le pain et le vin dans les rangs. Jésus va passer au milieu de nous. Laissons-nous nourrir par son amour et sa tendresse.
Merci Seigneur pour ce partage où tu te donnes. Que ce repas nous aide à vivre cette libération que tu nous as promise et qu'il nous donne la force de la partager autour de nous. Amen.
C'est l'offrande. Nous sommes une seule Église, donc l'offrande est destinée à nos deux communautés, c'est pendant l'été. L'offrande, c'est une offrande en donne, ce qu'on a envie de donner, personne n'est obligé. L'offrande fait vivre nos églises, nos deux communautés. Je vous dis merci d'avance.
Pour chanter ce dernier chant, je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, et à proclamer que nous sommes une seule église.
Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre réveillon, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, et pour nous c'est un nouveau jour se lève pour ceux qui se remettent de l'esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances. Que le vent du diable soit mis en lumière, que le Père fasse son les anges et nous ici présents passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant vivons dans l'unité. On verra que nous sommes faits d'ici à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus et que son salut soit. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul cœur, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes
Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour la bonne nouvelle. Et merci d'être en Église, de pouvoir nous encourager les uns les autres. Merci. Amen. Et les annonces, je change de micro, pardon. Dimanche prochain, le culte est au centre œcuménique. Avec Sylvain Dupertuis, nous poursuivons nos réflexions dans la liberté, sur la liberté. Et bon, nous avons eu des grillades cette semaine, donc dans 15 jours, soit le... dans 10 jours, soit le 16 juillet, il y aura de nouvelles grillades là sur la pelouse de l'EM et chacun est le bienvenu. C'est un moment de partage convivial très agréable dans cette pause de l'été. Et Nicolas a aussi une annonce à faire pour le côté protestant.
Oui, effectivement, on a chaque dimanche dans notre région, qui va de la Plaine jusqu'à Châtelaine, deux cultes, un à Mérins, soit ici, soit au centre écuménique. Vous annoncez aussi que la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y a des paroissiens de Vernier qui sont là en particulier, il y aura un culte à Vernier, à la chapelle, à 10h. Et puis, Denise me dit qu'il n'y a plus d'autres annonces, alors je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Oui, après être passé à travers la foule, Jésus a quitté son village pour aller plus loin. Pour nous aujourd'hui, comme pour les Nazaréens, nous sommes peut-être avec ce Jésus qui n'est plus là. Il nous a laissé son esprit. Il nous a aussi quand même tout donné. Une année d'accueil, la libération offerte. À nous de saisir cette promesse, de choisir la vie. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous accompagne durant cette semaine. Allez avec la paix du Christ. Amen.
Moi j'aime bien, laissez faire.